Salut! Bienvenue dans Maternelle Dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invitée du 9e épisode est Gwenaëlle Ferron, professeure de psychomotricité en Belgique et créatrice de la page Instagram Psychomote en maternelle. Avec Gwenaëlle, on parle des différentes parties du corps, de la relation de confiance parent-école, du football et de la glabelle. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Gwen!
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bien sûr. Donc, ouais, je m'appelle Gwenaëlle Ferron, j'ai 34 ans. Je suis maître de psychomotricité sur Bruxelles. Donc, maître de psychomotricité, c'est une spécificité en Belgique qui permet d'octroyer en fait 2 heures de psychomotricité aux élèves par semaine en engageant en fait des personnes qui ne font que ça. Alors qu'en France, c'est les instituteurs qui font la psychomotricité avec leurs élèves. Les institutrices maternelles, elles sont diplômées en Belgique, donc elles ont le double diplôme. Elles sont et instite et maître de psychomote. Mais moi, par contre, je ne suis pas du tout instite maternelle. Je suis éducatrice spécialisée à la base. Et j'ai suivi ensuite une spécialisation en psychomotricité. Et je travaille dans 2 écoles depuis 10 ans maintenant. 2 écoles maternelles, bien entendu.
En Belgique et à Bruxelles.
Hein. À Bruxelles, oui, tout à fait.
Est-ce que tu peux me donner ta définition du mot « genre » ?
Alors, j'ai cherché un petit peu, parce que j'avoue que je me suis dit « oulala, dans quoi je m'embarque ?» La définition qui me semble la plus juste, c'est du coup voilà, un ensemble de caractéristiques communes qui relie des groupes de personnes. À la base, j'aime pas trop moi le principe d'attribuer telle caractéristique, que ce soit caractéristique féminine ou masculine. Pour moi, c'est vraiment des choses qu'on nous inculque quand on est enfant et qu'on devrait déconstruire. D'autant plus que c'est vraiment pour moi la société qui crée le genre. Par exemple, au niveau des jeux pour les enfants, les slogans à publicité. J'en parlais il n'y a pas très longtemps par rapport aussi à la taxe rose, où voilà, des choses vont être plus chères ou moins chères en fonction si c'est pour un garçon ou une fille, juste parce que c'est rose ou bleu. Ça ne devrait pas exister, parce que pour moi, c'est vraiment juste une question finalement, de marketing.
D'après toi, quelle place a actuellement le genre dans le monde scolaire ?
Alors moi, je dirais qu'il est présent, mais sans vraiment qu'il soit nommé. Je vais plus parler par rapport à mes collègues. C'est que, par exemple, elles ont des rituels d'accueil, de compter combien il y a de filles, combien il y a de garçons. Mais du coup, est-ce que là, vraiment, enfin, moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on parle vraiment de genre ou est-ce qu'on parle là, à ce moment-là du sexe de l'enfant ? Donc, voilà, c'est vraiment une question que je me pose. Et j'ai remarqué aussi souvent que dans les écoles dans lesquelles je travaille, donc les 2 écoles, souvent, les classes, on attribue un animal. Donc, il y a les koalas, les abeilles. Je trouve que l'idée est pas mal parce que du coup, bah, ça dégenre hein, finalement. Enfin, ça dégenre la classe. Enfin, c'est, bah, on va dire, au lieu de dire, allez les filles, les garçons, venez. Enfin, dire non, allez, venez les koalas, on va aux toilettes. Enfin, du coup, je trouve que ça différencie pas mal et je trouve que c'est assez intéressant par rapport à ça. Par rapport à la place, je pense qu'il y a aussi une question de personnalité, enfin, de l'institutrice ou de l'instituteur, qui sera sensible ou pas. C'est vraiment parce que c'est une histoire personnelle. Déjà, qu'on soit une femme ou un homme, on ne va pas avoir du tout le même rapport au genre. D'autant plus que voilà, enfin, dans l'école maternelle, je n'ai aucun collègue masculin dans le maternel, j'entends. C'est vraiment une histoire personnelle, finalement, le genre. Donc, ça va vraiment être différent par rapport à ça. Je me suis amusée à préparer du coup, cette émission. À regarder dans le programme, donc parce qu'on a un nouveau référentiel, donc il y a eu une grosse réforme de l'éducation là, côté francophone en Belgique. Je suis allée voir ce référentiel pour voir où est-ce qu'on retrouvait le mot genre. Et ben on le retrouve 9 fois quand même. Donc voilà. Et c'était, alors je vais juste lire, c'est un peu rébarbatif, mais bon. On les retrouve donc dans les sciences humaines, donc c'est la rubrique sciences humaines, philosophie, citoyenneté, en M1 et M2, donc il y a M3 aussi. C'est dans les savoir-faire, construire une pensée autonome et critique. Et ensuite, l'objectif, c'est sensibiliser à la question du genre. Et l'attendu, c'est participer aux tâches et aux activités de la classe selon son choix et non en respect d'un classement de celle-ci selon le genre. Ça veut dire des choses sans que ça veut vraiment dire quelque chose. Moi, je trouve qu'il y a un côté... On peut faire ce qu'on veut avec ça, finalement. Mais il y a quand même une évolution. C'est que dans du coup, bah, le programme des études qu'il y avait avant, la question du genre n'était pas du tout abordée. Le mot genre ne se retrouvait pas. Et le seul moment où on trouvait fille, garçon, c'était par rapport au lexique. C'était nuancer le lexique en classant par les filles, les garçons. Donc, un peu ce que je disais tout au début au niveau du rituel. Donc, voilà, ils n'en parlaient qu'une seule fois dans l'ancien programme. Donc, je me dis que c'est déjà bien. Il y a déjà une évolution. que, en tout cas, que les autorités veulent donner dans la question du genre. Donc, voilà.
Chouette, merci de nous éclairer par rapport à l'aspect un peu plus théorique. C'est super intéressant. Pour toi, quelle place elle devrait avoir, cette question du genre, dans le monde scolaire ?
Alors moi, je pense qu'elle a sa place, mais qu'en même temps, elle ne devrait pas l'avoir dans le sens qu'on ne devrait pas différencier les filles des garçons. Ce sont des enfants et qu'on ne devrait pas, on ne devrait pas catégoriser, finalement, et plutôt voilà, individualiser. Un garçon va réussir à faire ça, une fille va réussir à faire ça, et c'est pas parce que c'est un garçon ou parce que c'est une fille. Bah, je parle aussi plus par rapport, moi ouais, je suis maître de psychomotricité, donc par rapport au sport. Non, faire du foot, c'est pas un jeu pour les garçons. On le fait avec tout le monde. Et sinon, bah, moi j'ai posé des questions à mes collègues, parce que du coup, c'est vrai que vu que moi je suis dans ma salle de psychomote, je ne vois pas trop ce qui se fait en classe. Elles m'ont répondu que finalement, elles, vu qu'elles travaillent avec des bacs autonomes, en fait, les jeux ne sont pas genrés. Depuis quelques années, on a enlevé finalement les coins symboliques. C'était les jeux symboliques qui amenaient finalement les stéréotypes. Parce que ben, on va jouer comme maman, on va jouer comme papa, on va jouer à la princesse, ben, voilà. Et du coup, le fait que ce soit des bacs autonomes, mes collègues m'ont vraiment dit qu'elles entendaient moins des réflexions du genre « elle joue à un jeu de fille, elle joue à un jeu de garçon ». Il y avait moins ça. Après, finalement, je dirais que le seul moment où le genre arrive, c'est quand c'est un événement d'extérieur qui arrive. Un gâteau d'anniversaire avec une belle princesse dessus ou Cars au carnaval. Je pense que tous les garçons sont habillés en Spider-Man et toutes les filles sont en princesse. C'est des choses finalement qui viennent de l'extérieur, qui vont genrer. Et ça rejoint bah, ce que je pense, c'est que vraiment, c'est que c'est la société qui crée le genre.
En tant que professeur de psychomotricité, tu amènes les enfants à développer des compétences liées au développement corporel. Tu leur apprends à connaître leur corps et à le mettre en mouvement. Peux-tu nous expliquer concrètement à quoi ça ressemble une séance de psychomotricité ?
C'est vaste. Bah déjà, il y a 4 grands axes dans les compétences psychomotrices. Donc, du coup, ce qui est le schéma corporel, la latéralité, l'espace et le temps. On va travailler ça donc, dans les séances. Je dirais que la séance, elle se déroule en 4 étapes. Au début, voilà, c'est le petit échauffement, mise en train, comme j'appelle. Là, c'est vrai que souvent, je privilégie les connaissances par rapport au corps, au schéma corporel. C'est vraiment la connaissance de soi, c'est comment je bouge, quelle partie de mon corps peut bouger, comment on s'appelle ces parties du corps. Ensuite, il va y avoir plus le corps de leçon, où là, bah, du coup, ça va être des petits jeux. Soit ça va être des jeux justement très dirigés, où entre guillemets, je vais leur dire quoi faire avec des règles établies, ou alors bah, des règles un peu plus libres, où... je vais proposer, par exemple, on va dire un cerceau, on va prendre le plus basique, et ils vont devoir bah, voilà, expérimenter le cerceau avec leur corps. Et en fin de séance, donc, il y a toujours un temps de verbalisation qui me semble vraiment très important pour les élèves. C'est vraiment de dire voilà, à quoi on a joué. Et à ce moment-là, bah, voilà, c'est plus la structuration temporelle. Et je termine toujours par un petit retour au calme. Voilà. Ça peut être juste un petit jeu ou plus après de la relaxation. Enfin, ça, après, ça dépend vraiment de ce que j'ai prévu. Donc, voilà plus ou moins comment ça se goupille.
Et concrètement, dans ces séances, comment est-ce qu'on peut essayer de déconstruire les stéréotypes de genre, tu crois ?
Moi, je ne m'y suis pas encore consacrée. Je sais que ça va être plus à des moments, je dirais, informels. Ça va être plus sur des remarques que les enfants peuvent avoir. On ne va peut-être pas spécialement l'aborder à ce moment-là du jeu, mais plutôt peut-être à la fin. Après, ça va un peu aussi dépendre de la dynamique du groupe à ce moment-là. Et du coup, bah voilà, de se dire, tiens, mais pourquoi il a dit ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc, ça va être plutôt dans ces petits moments, je dirais, un peu... Enfin, qui viennent des enfants, en fait, finalement. Et par contre, ça fait 10 ans qu'on me demande de jouer au foot et que je ne l'ai toujours pas fait. Pourtant, on joue à d'autres, on joue au basket, voilà, on joue à... On a fait quoi aussi comment ça s'appelle ? Du hockey. Mais c'est vrai que moi, le foot, je suis un peu... Alors, parce que voilà, je pense que j'ai mon histoire de fille, que le foot, enfin moi, j'aimais pas y jouer. Enfin, c'était pas... Voilà. Mais je me dis que je dois me faire violence et que je dois me dire, non, allez, c'est bon, va préparer quelque chose par rapport au foot. Finalement, comme je l'ai fait pour le basket, mais c'est vrai que voilà, c'est là que aussi ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment aussi c'est en fonction de l'histoire personnelle de l'adulte en face.
Bien sûr, et je trouve surtout que c'est intéressant de faire découvrir aux élèves
d'autres sports que le foot.
Oui, tout à fait. C'est un peu pour ça que j'avoue que je ne fais pas. Après, ils jouent au ballon. Il y a un moment donné où je leur donne des ballons et je leur dis, bah voilà, vous pouvez taper le ballon. Il y a tellement d'autres sports. J'ai fait une initiation baseball aussi. Ça, c'est assez chouette. Parce que, bah voilà, c'est pas, en plus, c'est pas des sports qu'on a l'habitude de voir à la télé.
Non, mais c'est sûr, au moins ça donne de la visibilité. Et j'ai l'impression, enfin moi je suis assez convaincue, que si les élèves découvrent ces sports, non via les médias, mais en classe, enfin dans l'environnement scolaire, où ils sont tous mélangés, donc ils sont tous au même niveau, entre guillemets, parce qu'ils commencent tous un nouveau sport, qui travaille des nouvelles compétences, j'ai l'impression que ce sera quand même moins stéréotypé pour plus tard.
Oui, tout à fait. Oui, parce que là, en tout cas en maternelle, voilà, c'est j'ai les garçons et j'ai les filles, il y a pas de différence. Et les équipes que je fais sont mixtes. Pour les plus petits, c'est pas mixte, mais là, c'est pourquoi je le fais, parce que j'ai une réflexion par rapport à ça. C'est pour un confort personnel. C'est parce que vu que je veux qu'ils restent dans un camp, c'est plus facile de mettre les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Comme ça, s'il y en a un qui s'échappe, je sais où il doit repartir. Donc là, c'est plus la notion de rester dans un camp. Et donc, du coup, c'est plus facile pour moi visuellement. Il y a les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Mais ça, c'est vraiment pour les tout petits. À partir du moment où je vois qu'ils ont justement acquis la compétence de rester dans leur camp, bah là, à ce moment-là, je peux mixer les groupes, en fait. Mais bon, c'était rigolo de se rendre compte, de dire, mais tiens, mais pourquoi je fais ça finalement?
Dans ton cours, donc tu parlais qu'au début du cours, surtout, tu voyais la connaissance du corps, les différentes parties du corps. J'imagine qu'on parle de son corps, du corps de l'autre. Et je me demandais, est-ce que tu parles de toutes les parties du corps? Est-ce qu'il y a des parties du corps que tu passes sous silence? Est-ce que tu te sens à l'aise? Comment ça marche dans le cours de psychomotricité?
J'ai créé justement une frise corporelle qui va donc du plus facile au plus compliqué, quoi. Qui va de la tête à la glabelle, parce que glabelle, c'est classe de le connaître, à la fin, en M3. C'est l'espace entre les sourcils. Et en fait, quand je l'ai fait, donc je l'ai fait il y a quand même quelques années, je me suis rendu compte, il y a pas, enfin, je sais pas si je m'en étais rendu compte au tout début, parce que je ne m'en rappelle plus, mais là, vu que récemment, là, j'ai créé un compte Instagram, et du coup, en la publiant sur ce compte, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que je n'ai pas mis le sexe et les fesses dans ma frise corporelle. Je me dis, bien, tiens, on en parle. Parce qu'à un moment donné, ça arrive. Et du coup, ça vient, à ce moment-là, ça vient des enfants. J'ai eu une anecdote, et je pense que c'est un peu pour ça, maintenant, peut-être que j'en parle un peu moins, parce que j'ai un rituel avec les tout petits. C'est que, donc, on chante une chanson, et à la fin, on attrape des bisous. Et les bisous, on va les mettre sur la tête, sur le nez. Et là, donc là, je pense que tu vois où j'en viens. Un bisou sur les fesses, ça va, c'est encore rigolo. Le bisou sur les sexes, c'est déjà un peu plus compliqué. Un jour, je pense que c'était arrivé, où il y a un enfant qui me dit le zizi. Je pense que c'était un petit garçon, je pense. Alors j'avais dit, je fais, oui, effectivement, le zizi, c'est une partie du corps. Je sais, par contre, voilà, j'explique bien. Je sais, par contre, là, on ne va pas mettre de bisous, parce que ce soit même papa, maman, n'importe qui, on ne peut pas mettre de bisous. On n'a pas le droit, c'est votre partie intime. Mais sauf que quelques jours plus tard, j'ai une maman qui est venue me voir, c'était il y a quelques années déjà, qui me dit oui, bonjour, Madame Gwen, voilà. Mon enfant m'a parlé de quelque chose, du coup je voulais en parler avec vous parce que je trouvais ça bizarre. Voilà, et il m'a dit, ou elle m'a dit, je ne sais plus si c'était une fille ou un garçon, que vous mettiez des bisous sur les sexes. Et là je me dis, oulala. Au début je ne voyais vraiment pas de quoi elle parlait, je me dis, mais de quoi elle me parle? Et après j'ai compris que c'était ma chanson de rituel. Donc là j'ai fait, ah oui, d'accord. Et je me suis rappelé qu'effectivement, 2 jours avant, on en avait parlé. C'est vrai que moi, cette histoire, voilà, déjà, si là je me rappelle, quand tu me poses cette question-là, je me rappelle, c'est que ça m'a vraiment marqué. Tout ce qu'on dit aux enfants, ça absorbe, et après, on ne sait pas trop comment ça va être ressorti à la maison. Et c'est sûr que, hors du contexte, je peux comprendre que cette maman était inquiète. Je lui ai expliqué, et tout est rentré dans l'ordre, et donc c'est pour ça que maintenant, je laisse les enfants, du coup, l'aborder, mais je pense que je vais quand même le rajouter, parce que enfin, je ne vois pas pourquoi, finalement, mettre un tabou là-dessus, alors que, bah, voilà, c'est enfin, finalement, c'est une partie du corps comme une autre. Mais après, voilà, c'est toujours problématique, parce que même si, voilà, les enfants, ils découvrent leur corps aux toilettes. Je trouve que mes collègues essayent de séparer, mais bon, ça peut arriver que les petits garçons fassent pipi à côté des petites filles. Donc voilà, il y a toujours ce côté-là. C'est pas évident parce que bah voilà, ils découvrent leur corps et que c'est comme ça. Mais c'est vrai que C'est pas une question facile à aborder.
Mais comme tu dis, ça arrive parce qu'en fait, il y a plein de situations de la vie, surtout j'imagine bien en psychomotricité, une balle qu'on envoie, enfin, c'est pas facile de gérer ça en tant qu'adulte. Surtout, bah, on en a déjà parlé dans plusieurs des émissions, c'est toujours un peu cette crainte de qu'est-ce que les parents vont recevoir comme information, comment est-ce que bah, eux, ils vont traiter cette information dite par l'enfant. Donc, ça aussi, j'entends bien que c'est pas facile.
Et comment eux le voient se toucher finalement aussi. On ne sait jamais ce qui peut revenir à la maison, comme tu dis.
Mais de quoi tu aurais besoin pour t'aider là-dedans, tu crois ?
Plus de formation, mais j'en suis quand même pas mal. Je pense que c'est par les formations, pas que moi, que je peux apprendre aussi de nouvelles techniques. Et aussi, je sais que souvent, j'essaye de me présenter aux parents en début d'année. Et j'avais déjà préparé justement bah, une vidéo où voilà, ça présente un peu ce qu'ils vont faire. Et je pense que c'est aussi bah, créer un contact avec les parents. C'est d'eux que vont venir les questions finalement. C'est d'être le plus transparent possible à ce moment-là.
Ouais. Quand tu as été formée en tant qu'éducatrice, puis en tant que maître de psychomotricité, on en parlait ? Vous en avez parlé de ça ?
Non, pas spécialement, non. Non, non.
Est-ce que tu penses que dans tes interactions verbales, tu as les mêmes interactions avec les filles et les garçons ?
J'espère. J'espère être justement le plus neutre possible. Après, c'est difficile de juger soi-même. Il faudrait pouvoir, en fait, finalement... Enfin, ça m'est déjà arrivé de filmer des séances pour un peu, justement, observer ce qui se passe. Parce que vu que j'ai 24 enfants devant moi, c'est sûr qu'à un moment donné, je ne les vois pas les 24 ensemble. Et le fait de filmer me permet un peu de voir ce que je n'ai pas vu. C'est plus pour voir et pas spécialement pour entendre. Mais voilà.
Ça, je trouve que c'est un super bon plan quand on a l'occasion de le faire. Je me souviens que moi, à la haute école, on m'en avait déjà parlé quand je me formais en tant qu'institutrice maternelle, le fait de se filmer et de regarder en fait, la manière dont on parlait, dont on se positionnait. Je me dis que pour cette question des stéréotypes de genre, si on s'y intéresse et si on veut un peu se remettre en question, ça peut être une source incroyable, ça peut être une mine d'or, quoi.
Oui, complètement. Parce que ça permet, je pense, de... Parce que sur le moment même, on va dire des choses, parce que, bah, voilà, on va les dire et elles vont, entre guillemets, un peu sortir sans filtre. Mais que le fait d'avoir un regard extérieur sur nous-mêmes, du coup, ça va nous permettre de dire « Ah tiens, j'ai dit ça à ce moment-là ». Et du coup, le fait de l'avoir vu et entendu d'un point de vue extérieur, ça nous va nous permettre que la prochaine fois, on le dira peut-être différemment, en fait, finalement.
Ouais, je pense aussi. Bon, ça prend du temps, clairement, parce que j'imagine que rien que de mettre en place et puis de regarder 1 à 2 heures de séance, ben, ça doit être quand même coûteux en temps. Mais là, on est seul face à sa prestation à soi. Donc, ben, on n'a déjà pas le regard des autres, quoi. On sent peut-être moins déjà critiqué que si c'était quelqu'un qui s'introduit dans la classe et qui regarde et qui met un peu en question notre pratique. Et donc, c'est toujours un peu difficile, je trouve, d'avoir des critiques de l'extérieur, que là, face à sa pratique à soi, ben, ça peut être sympa de pouvoir se remettre en question, je trouve, quoi.
Mais surtout que si on a... Enfin, si voilà, s'il y a quelqu'un qui vient nous observer, ben, je trouve que déjà, vu qu'on est un peu stressé, parce que, ben voilà, un regard extérieur, finalement, on va peut-être faire plus attention à ce qu'on dit. Et donc, du coup, ça ne va pas être représentatif de qui on est. Alors que si finalement on s'observe nous-mêmes de l'extérieur après, bah là on était nous-mêmes avec les enfants, avec notre pratique. Donc voilà, on va pouvoir vraiment observer quelque chose qui est vraiment nous et pas quelque chose qui est biaisé par la présence de quelqu'un dans la même salle.
Pour finir, aurais-tu un ou des bons plans à donner aux personnes qui nous écoutent ?
Alors, j'en ai plusieurs, du coup. Le premier, donc là, je vais me faire un peu de la pub perso, avec Manon Paquet, une amie à moi. On a du coup créé un livre jeunesse qui s'appelle « Le petit vautour qui s'était perdu ». Et donc, c'est un livre psychomoteur. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on va lire l'histoire, après, à partir de l'histoire, on peut créer un parcours pour que les enfants puissent vivre et donc se mettre à la place du héros. Et pourquoi j'en parle là maintenant ? Parce que, en fait, quand on a créé en fait, l'album jeunesse, Moi, je me suis posé pas mal la question justement par rapport au personnage et tout ça. Donc, on a pris un petit vautour et il y a un autre personnage, donc Mara. Et en fait, on a fait exprès de, donc déjà, de dessiner un enfant. On ne peut pas dire que justement, si c'était un garçon ou une petite fille. Et pareil, pour le vautour, bah voilà, c'est vrai qu'on a dû attribuer, qu'on a quand même mis des prénoms. Donc, ça peut un peu orienter. Enfin, voilà, il y a vraiment possibilité, bah, du coup, de que les enfants puissent vraiment s'identifier à ce petit vautour ou à Mara, qu'il soit fille ou garçon. Et aussi, d'ailleurs, et Mara, on l'a clairement aussi mis métisse pour sortir de l'éternel album jeunesse qui met en scène un petit garçon blanc en héros. Et d'ailleurs, pour les avoir comptés, je me suis posé la question, mais vraiment après, c'est vraiment là récemment que je me suis dit, tiens, mais il y a combien de personnages féminins et masculins dans cet album? Et on est à 6 personnages féminins contre 3 masculins. Et je trouve que, sans l'avoir fait exprès, c'est une belle performance. Et sinon, en fait, récemment, j'ai découvert une maison d'édition qui s'appelle Little Rainbow Edition. Et en fait, c'est deux mamans qui voulaient que leur petite fille puisse grandir avec un personnage auquel elle pourrait s'identifier. Et donc, un personnage, du coup, avec deux mamans, comme elle. Donc, elles ont créé, bah, du coup, une maison d'édition et des petits livres. Et en fait, je trouve ça super chouette parce que finalement, c'est très peu représenté dans la littérature pour enfants, des couples homoparentaux, parce que bon, voilà, souvent c'est très hétérocentré. Et il y en a un autre que je suis en train de lire, que j'ai découvert dans un article d'un magazine, qui en fait c'était donc c'est Mélanie Lallet qui a écrit donc Libérée, délivrée. C'est une analyse socio-historique des identités de genre proposées dans les séries animées françaises. Elle va analyser, je crois que c'est 50 dessins animés. Donc de 1900, je crois que c'est de 1950 à aujourd'hui, sur bah voilà comment le genre est abordé. Et ça a l'air super intéressant parce que ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que finalement les stéréotypes de genre viennent de l'extérieur, et bah les dessins animés en font clairement partie.
On a beau dire que les enfants ne doivent pas être trop devant les écrans, il faut se rendre à l'évidence. Ils sont
Bien
tout
sûr,
le temps devant les écrans,
ils
enfin
sont tout le
beaucoup
temps
en
dans
tout
leurs
cas.
écrans, bien sûr.
Donc ouais, ça va être super intéressant. Merci pour tes trois bons plans. Moi aujourd'hui, ben, je vais parler d'un podcast. Ça s'appelle 3 minutes contre les stéréotypes de genre. C'est fait dans une bibliothèque par une certaine Laura et elle fait des courts podcasts. Donc les épisodes sont de allez, 3-4 minutes, et c'est à destination des enfants. Et justement, bah, on essaie de déconstruire les stéréotypes directement pour les enfants. C'est très sympa, je pense, à faire écouter à des enfants, mais c'est très sympa aussi en tant qu'adulte de réécouter certains aspects un peu plus théoriques ou des questions qu'on se pose, nous.
Et c'est intéressant parce que il y a souvent justement la plupart des podcasts finalement sont du coup à destination des adultes. Ça a l'air intéressant. Et puis voilà, c'est 3-4 minutes, donc c'est bien. C'est juste le temps de mettre cette petite graine et que ça germe après.
C'est ultra facile à écouter et même à faire écouter, ouais. Merci Gwen
Merci à toi.
pour cette interview.
Merci beaucoup.
C'était le 9e épisode de Maternelle Déjorée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Gwenaëlle Ferron pour cette discussion. Je vous invite à vous abonner à sa page Instagram, Psychomote en maternelle, et consulter son album pour enfants, Le Petit Vautour qui s'était perdu. Les références sont en description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Maternelle Dégenrée sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Vous pouvez aussi suivre la page Facebook et Instagram du podcast pour plus de bons plans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt!